Vous écoutez
RMC. RMC, l'After Live.
Jean-Louis Tour.
Bonsoir à tous et bienvenue sur RMC pour le multiplex de l'avant-dernière journée de Ligue 1, la 33e journée. C'est le plaisir de fin de saison, c'est multiplex. Donc pour terminer cet exercice et notamment la fameuse course à l'Europe qu'on va détailler dans quelques secondes, on va aller sur les différentes pelouses des 8 matchs de Ligue 1 qu'on va vous commenter à partir de 21h avec nos envoyés spéciaux. D'ici au coup d'envoi, les infos compos, les analyses d'avant-match avec Kevin Diaz de la Dream Team qui nous accompagne comme tous les dimanches soirs. Salut Kevin.
Salut Jean-Louis, salut à tous.
La course à l'Europe, le titre, même si le PSG ne peut pas être mathématiquement champion ce soir, la course au maintien également et plutôt à la place de barragiste, c'est l'enjeu donc de cette soirée, la 33e journée de Ligue 1, plus le classico entre le Barça et le Real. On va se régaler, c'est parti. Et on va commencer par aller sur les pelouses pour donner un maximum d'infos, compos d'équipe pour donc cette soirée de Ligue 1. On va commencer par le choc pour l'Europe entre Monaco et Lille. À Louis II se trouve Maxime Tilliette. Salut Maxime.
Salut Jean-Louis, salut Kevin, bonsoir à tous.
Qu'est-ce qu'on doit retenir des compos des deux côtés tout d'abord?
Bah alors, un changement effectué par Sébastien Pocognoli par rapport au 11 de départ monégasque qui s'était imposé le week-end dernier difficilement à Metz. C'est la sortie de Paul Pogba qui sort du 11 et retrouve une place sur le banc. Il est remplacé poste pour poste par le jeune Aladji Bamba formé à l'AS Monaco. Sinon, c'est du classique avec Zakaria le capitaine en défense, avec Akliouche et Golovin en soutien de Balogun en attaque. Et côté Lillois, le choix de la continuité pour Bruno Genesio qui aligne le même 11 que lors des deux derniers matchs face au Paris FC. La victoire et le nul face au Havre le week-end dernier, avec donc toujours l'homme en forme, Mathias Fernandez-Pardo en pointe et Olivier Giroud qui démarre sur le banc.
Bon, là c'est vraiment deux équipes lancées donc dans la quête européenne. Je rappelle la situation au classement pour ces deux équipes. Donc Lille est quatrième avec 58 points, 2 points de retard sur Lyon. Donc actuellement Lille est en Ligue des Champions mais par le tour de barrage. Lille a 2 points d'avance sur Rennes et 4 points d'avance sur Monaco. Donc tout l'enjeu pour les monégasques, c'est de raccourcir cet écart à l'issue de cette soirée. Deux équipes qui ont montré des visages très différents, Kevin, donc c'est dur d'avoir une lecture sur ce match, non?
Ah, c'est sûr que c'est très très compliqué. De toute façon, parier de tout court sur le foot, c'est pas facile. Mais alors en Ligue 1, sur les dernières semaines, faut quand même s'accrocher. Je pense à nos amis les parieurs.
On va le faire dans une seconde d'ailleurs.
Ouais. Mais franchement, c'est très très difficile. Je vois quand même. Allez, si tu me demandes, je vois quand même Lille pouvoir accrocher l'AS Monaco. Maintenant, te dire qu'ils vont aller gagner, ça va être en fonction des faits de jeu, ça va être en fonction aussi de l'état de forme, parce qu'on a vu ces Lillois un peu par phase, un peu comme les Lyonnais là, sur des séries très positives mais également sur des séries très négatives. En tout cas, pour l'instant, ils sont plutôt bien.
On va faire les paris sur ce match donc tout de suite, on y va.
Winamax, le plus important, c'est de gagner.
C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax.
Avec Yoann Guillet de la rédaction des Paris. Salut Yoann.
Salut messieurs, salut à toutes et à tous.
Bon, ça doit être équilibré en plus comme cote.
Plus qu'équilibré, c'est la même cote pour les deux équipes. De 45 pour Monaco, de 45 pour Lille. Le nul est à 3,65. Et comme par principe, je ne parie jamais la même chose que Kevin Diaz, je vais plutôt partir sur Monaco qui s'impose avec les deux équipes qui marquent. C'est coté à 3,90.
Ouais, Kevin, il est capable de faire l'analyse sur Lille, mais de donner quand même la victoire de Monaco.
Alors, puisque t'as parié sur la victoire de Monaco, Yoann Guy a parié sur la victoire de Monaco, oui. Et bien sûr, par principe, vu que c'est un très très bon parieur quand même, je vais quand même conseiller aux Afteriens d'absolument faire le contraire.
C'est-à-dire
Lille qui ne perd pas et les deux équipes qui marquent.
Ah, si on part sur Lille qui ne perd pas avec les deux équipes qui marquent, c'est coté à 2,10.
Très bien, bon, c'est pas mal.
C'est pas mal du tout.
Bon, allez, on prend rmcsport.fr pour les conseils de la Dream Team.
Winamax, le plus important, c'est de gagner.
C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Et juste un mot sur l'ambiance, Maxime, à Louis II. Il y a encore les banderoles, Scouro, direction dehors, tout ça, ou pour la dernière journée?
Pas déployé. Pas déployé pour le moment, mais c'est le message global toujours le même de la part des ultras monégasques qui demandent encore et toujours la démission de la direction. Bon, mais pour l'instant, il n'y a pas encore de banderole.
Très bien. À tout à l'heure, 21h pour le coup d'envoi de Monaco-Lille. L'équipe qui peut jouer gros ce soir, c'est Lyon à Toulouse. Puisque Lyon, ce soir, en imaginant que Lille ne batte pas Monaco, et bien si Lyon gagne à Toulouse, Lyon validerait son retour en Ligue des Champions 7 ans après et avant même la dernière journée. Toulouse-Lyon, ce sera avec Romain Amalric ce soir. Salut Romain.
Salut Jean-Louis, salut Kevin, bonsoir à tous.
Donne-nous les infos compos d'abord.
Alors les infos compo du côté de Lyon, il n'y a pas vraiment de surprise dans la composition de Paulo Fonseca avec Dominique Greff dans les buts, la défense à 4, Maitland-Niles, Mata, Niakate, Abner, au milieu de terrain Morton avec Corentin Tolisso, Kalis Mera en rôle de numéro 10 en gros, Hendrik et Moreira les offensifs sur les côtés et Yaremchuk en pointe côté lyonnais, côté toulousain là aussi il n'y a pas de grande surprise si ce n'est que c'est Russell Rowe qui est préféré à Emerson pour débuter sur la pointe de l'attaque, Bo et Hidalgo pour l'encadrer sur l'aspect offensif, Vossa avec Caceres au milieu de terrain, Metali, Donum pour les pistons sur le côté, la défense à 3, Nicolas Hyssen, Cresswell, Mackenzie et évidemment Guillaume reste dans les buts.
Toulouse qui est donc dans ce championnat avec Lorient, le Paris FC, Brest, des équipes qui n'ont plus rien à jouer pour les deux dernières journées. Donc voilà.
C'est le championnat pour rester dans la colonne de gauche. Ou pour entrer dans la colonne de gauche, comme disaient les Belges et les Néerlandais.
Ou bien réussir sa dernière à domicile. Ça peut être une démotivation pour les Toulousains.
Et surtout qu'à domicile, ça s'est jamais trop bien passé pour les Toulousains qui sont plus efficaces à l'extérieur qu'à domicile. Hein. Sur les 11 victoires, il y en a 6 à l'extérieur, seulement 5 au stadium.
Après, ça peut donner un match spectaculaire quand même. C'est ça. Deux équipes qui ont envie de.
Et Lyon, c'est quand même fort en ce moment. Hein. On a fait le match ensemble contre Rennes la semaine dernière.
Ouais, Lyon est dans sa période de victoires consécutives.
C'est ça.
C'est pile ou face.
Et c'est ça. Lyon, c'est donc 13 victoires de suite, 9 matchs sans victoire. Et donc là, tu l'as dit, 4 victoires de suite. Donc c'est la bonne série pour les Lyonnais qui finiront contre Lens lors de la dernière journée. Merci Romain, à tout à l'heure. Les deux autres équipes concernées par l'Europe, c'est Rennes tout d'abord. Rennes qui reçoit le Paris FC. Xavier Grimaud est sur place. Salut Xavier.
Salut Jean-Louis, salut Kevin, salut tout le monde.
Bon là, il n'y a pas trop à réfléchir, il faut gagner.
C'est ça, faut gagner parce que en espérant que peut-être Lille gagne à Monaco, ce qui mettrait Monaco hors de portée, assurerait au moins le top 6 pour les Rennais. Il y a encore un petit coup de collier à mettre hein, malgré tout, parce que Marseille par exemple, en gagnant ces deux matchs, passerait devant Rennes à la fin de la saison, même si Rennes gagnait ce soir, puisque le dernier match ce sera un très agréable à suivre, en tout cas très attendu, Marseille-Rennes au Vélodrome pour la 34e journée. Donc il faut gagner face au Paris FC. On se demandait si le Paris FC serait un petit peu en vacances. En tout cas, il y a des changements dans la compo de Camboire. Et je vais commencer quand même par la compo rennaise avec des surprises. Malgré tout, on passe du 4-4-2 au 4-3-3 pour Francaise. Il y a Lilian Brassier qui se retrouve sur le banc. Ça, on s'y attendait pas forcément. On s'attendait à ce que Rouault retrouve une place de titulaire, mais plutôt à la place d'Aïd Boudlal qui avait été un petit peu dilettante, on va dire, sur ses derniers matchs. Eh bien, c'est Brassier qui sort du 11. Naguida est là sur la droite. On s'y attendait à la place de Seydou qui était en difficulté à Lyon notamment. Et c'est Mbolo qui sort du 11 parce qu'il n'y a plus qu'un seul attaquant de pointe, ce sera le Paul évidemment, qui d'autre. Et c'est Simanski donc qui sera titulaire avec le retour de Blas également. Il était sur le banc à Lyon. Du côté du Paris FC, il y a des surprises quand même, hein, puisque notamment Mounetsi est sur le banc, tout comme Moses Simon, tout comme Immobile par exemple. Donc c'est Jebels qui sera à nouveau à la pointe de l'attaque. Ilan Kebal est titulaire derrière lui. On aura collé au chaud notamment, et Pierre Lesmelou, le capitaine du Paris FC, qui est de retour de suspension. Voilà à peu près pour les principales, on va mettre la conjugaison comme il faut, principales infos compo.
Et il fait quel temps ?
Il fait pas beau.
Il
fait
pas beau du tout. Endroit, donc je me dis en Bretagne.
Ouais, non, il pleut. Il y a eu des gros orages, notamment la nuit dernière. Là, ça tourne pas l'orage, mais par contre, la pelouse est bien arrosée. Là.
D'accord.
Là, okay. Très bien arrosée.
D'ailleurs, sur les différentes pelouses, là, je pose la question un peu à la volée pour tout le monde. Il n'y a pas de menace de coup d'envoi décalé ou de vu les trompes d'eau ? Non.
Non, non, non.
Bon, très bien.
Les pelouses sont bien drainées maintenant, tu sais, Jean-Louis. Hein.
Oui, oui, oui.
c'est notamment grâce à la nouvelle technologie de la pelouse hybride. Ouais. Qui permet donc de poser pour nos auditeurs, ça peut les intéresser. En fait, là, c'est les pelouses naturelles qui sont posées sur notamment un gros tapis de sable et du béton qui améliore le drainage avec morceaux de pelouse synthétique très très fins qui permettent le drainage vers l'herbe jusqu'au sable.
Très bien. Donc vous me dites qu'il n'y aura plus jamais de match reporté vu la modernité des pelouses.
C'est très très rare. Il faut vraiment.
Ou de coups d'envoi décalé en tout cas.
Il faut vraiment qu'il y ait des
petite info, Jean-Louis, à Toulouse. Oui. En l'occurrence, alors c'est pas forcément sur la qualité de la pelouse ou le niveau d'eau, mais il y a eu de gros éclairs pendant l'échauffement des joueurs. Et donc on a eu un petit doute. Je vous en ai pas parlé parce que maintenant ça s'est calmé. On a un petit doute sur le fait que le match commence vraiment à l'heure. Et Monsieur Deschépi aurait pu prendre en effet la décision en cas d'éclair d'orage un peu conséquent, en effet, de décoller l'horaire du match. Mais là, on est passé sous très très gros orage. Mais là, comme c'est passé, en théorie, on devrait être dans les temps.
Très bien. A priori, donc pas
mais
de
la pelouse est bien arrosée, du coup. Je vous assure.
Elle est bien arrosée, bien drainée. Donc très bien. Merci Romain. On finit notre tour des stades européens. Bah au Havre. Là, c'est peur sur la ville. Le Havre Marseille, Christophe Lécuyer sur place. Salut Christophe.
Salut Jean-Louis, salut Kevin, bonsoir à tous.
Peur sur la ville, t'auras compris, pas pour Le Havre. Même si, attention, il n'y a que 4 points d'avance avec Auxerre, le barragiste. Pour les Havrais, le maintien n'est pas encore assuré à 100%. Mais c'est surtout pour Marseille. On en a beaucoup parlé cette semaine improbable pour les Marseillais. La mise au vert à la commanderie, l'embrouille, le dérapage d'Aubameyang qui est suspendu. Du coup, quel compo Habib Bey a-t-il aligné?
Eh bien, 4 changements dans le 11 de départ d'Habib Bey suite à la déroute nantaise, avec déjà un changement de gardien puisque Geoffrey Delange ne sera pas dans les buts ce soir. Retour de l'Argentin Jeronimo Rulli donc dans les buts de l'Olympique de Marseille. Alors des changements parfois contraints et forcés, Vermeeren est sur le banc, Traoré qui s'est blessé à Nantes n'est pas du voyage, et puis Pierre-Emerick Aubameyang non plus, mais pour d'autres raisons, on vient de l'évoquer. Ça nous donne donc dans le 11 de départ de l'Olympique de Marseille ce soir Rulli dans les buts, une défense à 4 avec Emerson Medina, Balerdi et Pavard. Højbjerg aura le brassard de capitaine ce soir avec Nadi au milieu de terrain. Un milieu de terrain donc renforcé avec 3 joueurs à vocation plus offensive, avec évidemment Greenwood, Timber et Pechao. Et puis c'est Guiri qui sera à la pointe de l'attaque de l'Olympique de Marseille ce soir pour ce match. On l'a dit, ô combien important évidemment pour les Marseillais, mais qui n'auront pas la partie facile parce que tu l'as bien dit Jean-Louis, évidemment, il y a aussi une pression du résultat du côté du Havre avec cet objectif maintien à ficeler dès ce soir.
Exactement. Il y a des trucs d'ailleurs dans la compo havraise à retenir.
Un seul changement dans le 11 de départ de Didier Digard, c'est le retour du capitaine Aruna Sanganté, retour de suspension. Il va retrouver sa place dans la défense de Havraise ce soir. Et puis pour le reste, pas beaucoup de surprises. Soumaré et Samata seront associés à la pointe de l'attaque normande ce soir.
Et un avantage avec l'OM ces derniers temps, Kevin, c'est qu'on va vite voir dès le début du match s'ils ont lâché totalement ou pas. Tu vois ? Ça se voit vite, non ?
Alors, moi, j'y crois pas. Hein. J'y crois pas à cette notion de lâcher ou pas lâcher. Je crois en effet qu'il y a une équipe qui est en grande difficulté, qui a des individus qui sont en grande difficulté, un club qui est en grande difficulté. Mais je crois pas du tout qu'un joueur professionnel décide de lâcher, qu'il ait plus les ressources et qu'il n'arrive plus. Ça arrive dans les burn-out, une forme de burn-out. Quoi. Le mec n'arrive plus à jouer ensemble, n'arrive plus à faire les efforts. C'est ce qui se passe notamment dans les équipes qui finissent par descendre alors qu'ils étaient programmés comme Tottenham, peut-être pour jouer l'Europe, etc. Mais aujourd'hui, c'est vrai que par contre, que tu peux voir dès le début de match si les joueurs sont dans leur rencontre, s'ils mettent l'intensité nécessaire. Mais ce qui se passe aussi, parce qu'à Nantes, ok, c'était pas terrible, mais jusqu'à ce qu'ils prennent le premier but, disons qu'ils sont dans le match.
C'est correct, ouais.
Et après, c'est quand t'as la première adversité, quand t'as le premier coup sur la tête, c'est là où c'est plus difficile.
On va revenir dans une seconde. Merci Christophe. À tout de suite pour le Havre Marseille, 21h, le coup d'envoi. Les autres enjeux de la soirée, là, on a fait long sur la course à l'Europe, c'est le truc qui est le plus passionnant. Et encore le titre pour le PSG qui doit battre Brest, et puis le match peut-être pour le barrage entre Auxerre et Nice. On va sur ces pelouses dans quelques secondes sur RMC, sans oublier le classico entre le Barça et le Real à partir de 21h. À tout de suite sur RMC.